Bon, enfin, je vais commencer. Donc là, je vais vous présenter les résultats du projet Bémol. Donc Bémol, c'était pour bisphénol, donc occurrence environnementale, interaction métabolique et effet sur la gonade femelle. Donc ici, je vous ai juste représenté en fait le nombre de publications qui correspondent d'un côté aux perturbateurs endocriniens et de l'autre au bisphénol. Donc là, c'était juste pour rappeler que rapidement, en fait, c'était des préoccupations qui avaient pris une importance grandissante au cours des dernières années. Donc, c'est quand même des sujets qui sont en fort développement.
Excuse-nous, Sébastien, on ne voit pas la diapo dont tu parles. On est sur la première. Je ne sais pas si
Ah,
c'était prévu.
non, non, ce n'était pas prévu. Alors, je
Si
vais
tu fais
reprendre.
affichage plein écran, ça change quelque chose?
Ben, en fait, j'y étais
Ah oui,
normalement.
donc non, on ne l'a pas vu alors.
Non, ben, alors, je vais rester sur pas l'affichage plein écran. Donc on est là. Bon, si la taille suffit, je vais rester
Merci.
comme ça alors.
Ouais, parfait.
Donc les perturbateurs endocriniens, bon, je vais passer rapidement, mais pour le coup, il s'agit de molécules qui peuvent avoir des actions similaires à des hormones. Donc dans ce cas-là, on parle d'agonistes qui peuvent bloquer une hormone, enfin un effet hormonal. Donc on parle d'antagoniste. Et sachant qu'un même perturbateur endocrinien peut être à la fois les deux, donc il peut avoir des actions agonistes et antagonistes pour des hormones différentes. Donc on a différentes classes, différentes familles de perturbateurs endocriniens qui sont en général rassemblés donc soit par fonction donc les pesticides, les cosmétiques, les polluants industriels, donc dans lesquels on trouve les bisphénols. Et les substances naturelles, puisqu'il peut également y avoir des substances naturelles qui ont une fonction de perturbateur endocrinien. Donc ici, je vous ai représenté le bisphénol A, donc c'est la molécule donc, qui est tout en haut avec les deux cycles phénol. Et juste en dessous, en fait, vous avez la molécule de l'estradiol. Donc on voit qu'entre les deux qu'il y a une proximité structurale. Et ce bisphénol A est capable d'interagir avec les récepteurs de l'estradiol. Donc il a un effet œstrogénique modéré. Et à la base, en fait, il a été carrément produit par l'industrie pharmaceutique pour cet effet œstrogénique. Mais comme cet effet était faible, il a été abandonné pour cet usage-là. Par contre, il a été réutilisé derrière par les industriels des plastiques, qui l'ont utilisé pour d'autres effets, mais il a quand même conservé ses effets œstrogéniques. Et c'est ces effets, même s'ils sont modérés, qui posent problème aujourd'hui. Donc le bisphénol A, en fait, on y est exposé de façon importante, hein, puisque c'est produit à un tonnage très important au niveau mondial. Donc c'est des produits qu'on peut retrouver dans l'alimentation, puisqu'ils sont notamment dans les contenants des aliments. On peut les retrouver également dans les poussières aériennes, dans les tickets de caisse et dans beaucoup de produits plastiques, y compris des jouets pour enfants. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une exposition humaine bah, de la majorité de la population et qu'on retrouve ce bisphénol-là dans la majorité des fluides biologiques. Comme je vous le disais, le tonnage annuel de ce produit est extrêmement important. Et comme il s'agit d'un produit qui a conduit à des problèmes de reproduction à la fois chez le mâle et chez la femelle, et ça dans différentes espèces, hein, que ce soit chez des espèces poissons ou mammifères. Ce produit a été interdit. Alors, quand je dis interdit, ce n'est pas dans toutes ses applications, mais interdit notamment dans le domaine de l'agroalimentaire. Et suite à ça, il a été remplacé par des analogues structuraux de la même famille. Et donc, je vous ai représenté l'analogue structural le plus fréquemment utilisé en remplacement, donc c'est le bisphénol S. Et vous voyez qu'entre les deux molécules, en fait, il y a très peu de différence. Donc, il est remplacé par des analogues structuraux parce qu'en fait, il n'y a que le bisphénol A qui est soumis à une régulation. Toutes les autres molécules de cette famille ne sont pas réglementées. Donc, ici, je vous en ai représenté certaines, hein, puisque quand on parle de bisphénol, en fait, il y a au moins 25 candidats dans cette famille. Et donc, là, bah, vous pouvez voir rapidement qu'en fait, ils ont quand même tous plus ou moins la même structure et en tout cas suffisamment de proximité structurale pour être toujours proche de l'estradiol, donc qui est la molécule. Biologique naturelle avec laquelle ils peuvent interférer avec ces récepteurs en tout cas. Donc pour ce qui est connu aujourd'hui du bisphénol S, donc le candidat de remplacement du bisphénol A, c'est que ses effets sont plutôt similaires et de même amplitude que le bisphénol A. La majorité des études jusqu'à maintenant étaient plutôt sur les modèles poissons et rongeurs, et donc dans des espèces qui pouvaient être un peu éloignées des mammifères, ou dans des espèces comme les rongeurs où il y a naturellement une résistance aux toxiques, et donc qui fait que ça n'en fait pas forcément un bon modèle d'étude. Donc les objectifs du projet Bémol, en fait le premier était d'étudier les impacts du bisphénol S sur les cellules ovariennes, et pour ça on a étudié l'humain, mais aussi un modèle de brebis, puisque entre la brebis et l'humain, il y a quand même des points de comparaison possibles, que ce soit d'un point de vue durée de folliculogénèse ou de cycle œstrien, de nombre d'ovulations ou de sensibilité aux toxiques. Donc sur cet objectif-là, il s'agissait d'une collaboration donc, entre les partenaires académiques donc, du CHU et de l'INRA, puisqu'il y avait l'unité donc, de la PRC, l'unité expérimentale PAO, donc de l'INRA de Nosilly. Donc l'idée, donc quand on parle de folliculogénèse, en fait, ici vous avez la représentation donc d'un ovaire avec tous les stades par lesquels va passer le follicule ovarien et jusqu'au dernier stade, donc qui correspond à l'ovulation. Donc cette folliculogénèse, en fait, elle est divisée en deux stades, une phase qui est très longue, la folliculogénèse basale, qui dure 3 mois, et une phase beaucoup plus courte, qui est la folliculogénèse terminale. Donc je voulais juste vous présenter ça pour vous dire qu'en fait, on avait approché ces deux phases dans le projet, à la fois la phase terminale où là, on peut uniquement étudier un effet aigu des bisphénols, donc un effet très court. Et dans des modèles in vivo, en fait, on a pu étudier la folliculogénèse basale où là, on peut étudier l'effet chronique des molécules puisqu'on fait une exposition longue, donc de 3 mois. Le deuxième objectif du projet était d'étudier donc les niveaux d'exposition au bisphénol. Et donc, dans ce projet-là, on collaborait avec le BRGM à Orléans. Donc, l'idée à la base, c'était de déterminer les niveaux d'exposition au bisphénol dans les eaux de la région, donc de réaliser un espèce de catalogue des expositions donc au bisphénol A et au bisphénol S, mais également de mettre au point, tous les autres bisphénols non, mais le plus grand nombre d'autres bisphénols possibles, et de regarder ce qu'il en était de leur exposition. Et également d'étudier les sources de contamination de ces polluants, donc notamment au niveau des décharges. Donc pour ce deuxième objectif, on a été confronté à plusieurs problèmes. Donc les campagnes de la mise au point des dosages, ça n'a posé aucun problème. La récupération des échantillons, par contre, pour les échantillons des eaux de surface, ça a posé problème puisque ça a été prévu à la base en 2019. On a annulé la campagne de récupération pour cause de sécheresse, pour la décaler en 2020, ce qui a été une très mauvaise idée. Et en 2020, donc, on a eu des problèmes de récupération des échantillons pour les raisons de la pandémie qui faisaient que les déplacements et les contacts nécessaires étaient limités et donc non souhaitables. Et cette partie exposition, finalement, a été remplacée par une recherche de l'exposition humaine. Donc soit directement dans les fluides biologiques humains, soit en regardant ce qu'on pouvait avoir dans les milieux de culture, donc puisque ça correspond à l'exposition pour les femmes qui suivent des traitements de procréation médicalement assistée. En fait, leurs ovocytes sont mis en culture pour pouvoir avoir des embryons humains qui sont ensuite transférés. Et donc, on a voulu tester tous les consommables et les milieux de culture utilisés dans ces processus. Donc pour répondre à ces deux objectifs, on avait également des partenaires non académiques, donc qui étaient donc soit des associations donc présentes en région, donc qui étaient intéressées par les retombées environnementales, comme la CEPAN ou la FNE, par les retombées en santé, donc comme la FRAPS, et également des associations donc qui étaient positionnées très directement sur la question des perturbateurs endocriniens, mais hors région, comme l'AZEF ou le REST. Et on avait également associé donc, en collectivité territoriale la région centre. Et donc, on avait une conseillère régionale qui était impliquée dans le projet, qui venait de la direction de l'environnement et de la transition énergétique. Donc, en ce qui concerne le premier objectif, donc j'ai choisi de vous faire une présentation extrêmement synthétique en termes de résultats. Donc, pour la première partie qui concerne les bisphénol S et les effets sur l'ovaire, donc, comme je vous le disais, on a testé les effets aigus. Donc, pour ça, on récupère des ovaires d'abattoir. On récupère d'une part les cellules de granulosa, donc qui vont entourer l'ovocyte, et d'autre part l'ovocyte. Donc, une fois qu'on a récupéré ces deux types cellulaires, ils sont tous les deux mis en présence de bisphénol A ou de bisphénol S. Et on regarde ensuite pour l'ovocyte différents paramètres qui vont renseigner sur sa qualité. Et pour les cellules de granulosa, on regarde ce qu'il en est de la sécrétion des hormones sexuelles, donc notamment la progestérone et l'œstradiol. On a voulu faire le pendant dans la population humaine, donc on ne peut pas faire exactement la même chose hein, parce qu'on a des accès limités aux échantillons, donc toute la partie sur l'ovocyte n'est pas possible hein, dans la population humaine. Donc dans ce cas-là, on a récupéré les fluides folliculaires pour regarder les niveaux d'exposition donc, de la population. Et en ce qui concerne les cellules de granulosa, par contre, on a pu faire la même chose que dans le modèle brebis pour valider ce qu'on avait observé. Et en ce qui concerne l'étude des effets chroniques, donc là, on utilise un modèle animaux donc, qui consiste, donc, il s'agit de brebis. Et on utilise des brebis qui sont soit maigres, soit grasses, et elles sont exposées au bisphénol pendant 3 mois. Alors, on s'est intéressé à des animaux de statut métabolique différent, puisqu'en fait, il y a un lien assez fort entre le métabolisme lipidique et le fonctionnement de la reproduction femelle. Et du coup, on avait posé l'hypothèse qu'en fonction du statut métabolique de l'individu, on pouvait avoir une sensibilité différente de réponse aux perturbateurs endocriniens. Et donc, on a voulu répondre à cette question-là. Donc, dans ces animaux qui ont été exposés pendant un temps long, on a récupéré bah, d'une part les fluides folliculaires pour regarder donc, tous les dosages hormonaux et d'autre part les ovocytes et on a estimé leur qualité. Donc ici, je vous ai synthétisé la majorité des résultats. Donc en fait, en ce qui concerne le bisphénol S, donc, on n'a pas observé de toxicité cellulaire contrairement au bisphénol A, mais pour le bisphénol A, on l'a observé uniquement à très forte dose. On n'a pas observé non plus d'effet sur la prolifération cellulaire, alors que pour le bisphénol A, il y avait un petit effet à forte concentration. En revanche, en termes d'effet sur la stéroïdogenèse, donc la production des hormones sexuelles, le bisphénol S diminue la progestérone, et ça à une dose qui est au moins équivalente à celle du BPA, voire à des doses inférieures. Les deux molécules augmentent la sécrétion d'œstradiol. Donc bon, ça dépend du modèle dans lequel on regarde, mais en fait, les deux molécules ont les mêmes effets sur la sécrétion d'œstradiol. Et pour autant, donc, ces deux molécules partagent quand même pas mal d'effets en commun, mais il y a quand même des mécanismes d'action qui semblent être différents entre les deux molécules. Si on regarde directement les effets sur la qualité de l'ovocyte, bon, on a regardé différents paramètres que je vous ai listés là, mais bon, ces différents paramètres montrent juste que le bisphénol S diminue la qualité de l'ovocyte. Et ce qui a été un peu pas forcément attendu, c'est qu'on a aussi cet effet de diminution sur la qualité à des concentrations qui sont environnementales, donc très faibles. Et en ce qui concerne le dernier dispositif que je vous présentais, donc par rapport au statut métabolique, on s'est rendu compte en fait, qu'on regarde la qualité ovocytaire ou la sécrétion d'hormones. En fait, on a une interaction entre le statut métabolique de l'individu, donc son niveau d'engraissement, en fait, hein, qu'il soit gras ou pas, et l'effet du bisphénol. Et en fait, ça va dans le sens que, du coup, ces individus montrent une sensibilité exacerbée en fonction de leur statut métabolique. En ce qui concerne l'exposition au bisphénol S, donc on a, comme je vous le disais, on a récupéré des fluides folliculaires donc d'une soixantaine de patientes qu'on a dosées donc pour 4 bisphénols. On en a retrouvé 2, majoritairement le bisphénol S, donc ce qui confirme bien que c'est bien le premier candidat de remplacement du bisphénol. Donc il y a en gros 25% des patientes chez lesquelles on trouve des niveaux détectables. Alors je ne dis pas qu'il y a 25% des patientes qui sont exposées, je pense qu'il y en a plus que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que les fluides folliculaires sont récupérés donc, au moment de la ponction des follicules pour les femmes qui suivent des protocoles de procréation médicalement assistée. Cette ponction, elle a lieu à jeun. Et en fait, donc après 12 à 16 heures de jeûne, et le bisphénol, une fois qu'on l'ingère, en fait, sa concentration, elle diminue très rapidement. Et au bout de 12 à 16 heures, elle est divisée par entre un facteur 4 à 6. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 16 heures de jeûne, on a 25% des patientes chez lesquelles on a un niveau détectable de bisphénol. Il y en a probablement beaucoup plus qui sont en fait réellement exposés au bisphénol. Donc, on a retrouvé des niveaux d'exposition moyens qui sont de l'ordre de 2 nanogrammes par ml. Et en parallèle de cette exposition humaine, donc on a testé tous les consommables plastiques qui sont utilisés donc, au CHU pour produire les embryons humains. Et les milieux de culture. Donc, sur les 17 consommables plastiques qu'on a testés, en fait, ils contiennent tous. des bisphénols. On en a retrouvé trois principalement, du bisphénol A, du bisphénol S ou du bisphénol AF. Et par contre, on les a retrouvés dans les produits quand on les a attaqués avec des solvants, mais quand on les regarde dans les conditions usuelles d'utilisation, on n'a pas observé de relargage, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, quand on a testé les milieux de culture qui sont utilisés en PMA, donc on a utilisé 18 milieux différents, on a 16 milieux qui contiennent des bisphénols et on a 6 milieux qui en contiennent une concentration supérieure à 1 nanomolaire. Donc là, je vous ai mis ce dernier point parce qu'en fait, la concentration supérieure à 1 nanomolaire, c'est des concentrations très proches de celles qu'on a pu montrer dans les manips précédentes pour altérer la qualité de l'ovocyte. Et donc, on a poursuivi en fin de projet, puisque, bon, bah, comme je vous ai dit, il y a quand même plusieurs bisphénols. Le projet était focalisé sur le bisphénol S, mais du coup, on a voulu regarder s'ils avaient tous plus ou moins les mêmes effets. Donc, on a juste fait des manips rapides. On en a comparé 7. Donc, vous avez le bisphénol A et le bisphénol S donc, qui faisaient l'objet du projet. 5 autres. Et ensuite, on a mélangé ces 5 bisphénols et tout ça pour une même concentration. Ce qu'on a pu voir, c'est que globalement, on avait toujours le même effet, alors avec parfois quelques petites différences d'intensité, mais en fait, globalement, c'est quand même le même effet qui est observé pour tous les bisphénols. Quand on regarde la dernière colonne qui correspond à un effet cocktail, ben, en fait, on voit qu'à minima, il y a une additivité des effets de ces différentes molécules. Et donc là, l'idée pour la suite, ce n'est pas de les étudier une par une, forcément, mais ce serait plutôt d'essayer de faire évoluer la réglementation. Puisqu'on se rend quand même compte qu'une réglementation, donc la réglementation actuelle, c'est une réglementation individuelle des molécules, ça n'a pas forcément de sens, au moins dans le cas de famille de molécules qui ont une proximité structurale très importante, mais qu'il faudrait du coup avoir des réglementations plutôt par famille de molécules. Et donc, pour aller dans cette direction-là, on a choisi de prolonger, de poursuivre, puisqu'en fait, le projet s'était très bien déroulé et que le partenariat avait très bien fonctionné, de poursuivre par un deuxième dépôt de projet, donc on a déposé cette année, donc il s'agit du projet PERFECT, et un projet qui permettrait de creuser cette question donc d'effets communs de différentes molécules et d'effets cocktails, et également de creuser les questions de l'exposition environnementale ou des sources d'exposition qu'on n'a pas pu creuser dans ce projet-ci. Voilà, je vous remercie de votre attention.